Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Sébastien Lemay.
Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. Appel sur l'actualité jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, comme chaque vendredi, ce sera la libre antenne. Vous pourrez réagir à l'actualité de votre choix, revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué, qui vous intéressent depuis quelques jours dans l'actualité internationale, africaine ou même française. Des sujets qui font la une, mais pas seulement. Aucun sujet n'est tabou. Où que vous soyez, vous lancez le débat donc sur RFI et pour nous joindre, bien sûr, toujours ce même numéro, 33 9 693 693 70. Notre adresse email également, ne l'oubliez pas, appel@actu.rfi.fr. On la consulte tout le temps et vous pouvez également réagir, débattre sur nos comptes Facebook et Twitter. Mais avant de lancer cette libre antenne, comme chaque jour, vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité avec un premier auditeur en ligne. Il s'agit de Philippe. Bonjour.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et vous avez une question, plusieurs questions même, sur la mort d'un adolescent noir à Ferguson, dans le Missouri, aux États-Unis. Je vous propose de nous poser déjà votre première question.
Oui Sébastien, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale. J'ai appris sur les antennes de RFI qu'un jeune américain noir a été froidement abattu par un policier blanc. J'aimerais savoir la peine qu'encourent ces policiers.
Alors, pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Thomas Negarov. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste des États-Unis. Pour rappeler en deux mots, Mike Brown, 18 ans, un adolescent noir abattu le 9 août par un policier blanc, Darren Wilson, 28 ans. La police dit qu'il venait de commettre un vol. Il aurait agressé ce policier et tenté de lui dérober son arme. Des témoins disent qu'il a été abattu alors qu'il avait les mains en l'air. Néanmoins sûr, déjà la première question de Philippe, les sanctions que risque ce policier Darren Wilson, pour l'instant, si je me trompe pas, il est en congé administratif mais laissé en liberté, il risque quand même gros, Thomas Negarov.
Oui, oui, il risque évidemment très gros, comme n'importe quel citoyen américain qui en tue un autre, parce que même s'il est policier, il n'est pas au-dessus de la loi, en tout cas théoriquement. Donc bien sûr, il risque d'abord d'être licencié de la police. D'ailleurs, il y a pas mal d'associations qui aujourd'hui se demandent pourquoi ce n'est toujours pas le cas, même s'il y a évidemment la présomption d'innocence. Et puis il y a bien sûr des risques au pénal. Il peut faire de la prison et s'il est accusé d'avoir tué ce jeune noir sans aucune raison, il sera évidemment emprisonné, même si, et c'est une problématique à mon avis importante à comprendre, beaucoup d'Américains, de Noirs américains, mais aussi de Blancs, ne font pas beaucoup confiance dans la justice lorsqu'il s'agit de juger un policier. Et on peut se souvenir qu'en 1992, lors du procès Rodney King, vous savez, ce Noir qui avait été tabassé par la police de Los Angeles...
Et qui avait, ça avait entraîné des graves émeutes. Hein.
Des graves émeutes, et surtout il y avait eu un film, il y avait une vidéo amateur qui avait montrer tout cela, eh bien malgré la vidéo amateur, où vraiment on montrait que ce Rodney King avait été tabassé par la police alors qu'il ne présentait pas de danger directement pour elle-même, eh bien ces policiers avaient été acquittés une première fois et en appel acquittés une deuxième fois. Donc bien sûr théoriquement Darren Wilson est injusticiable comme les autres, mais pour beaucoup d'Américains et de Noirs américains en particulier, il est un peu au-dessus de la loi. Alors on verra bien sûr ce que la suite nous dira.
Et évidemment, s'il y a un procès, ce sera forcément très très suivi. Philippe à Kinshasa, vous aviez une seconde question.
Oui Sébastien, la seconde, c'est que la fréquence des dérapages raciaux dans la police américaine est-elle en baisse ou en hausse qu'il y a 10-15 ans?
Alors Thomas Negarov, effectivement, cette question, ces dérapages ratio entre guillemets au sein de la police, est-ce qu'il y en a plus ou moins qu'avant ces 10-15 dernières années? Est-ce qu'on voit une augmentation de ce genre de bavure sur base justement de la couleur de peau?
Alors faudrait d'abord s'entendre sur ce qu'on entend par dérapage. S'il s'agit effectivement d'un noir tombé sous les balles d'un blanc, les rapports du FBI sont assez précis là-dessus. En fait, il n'y a pas vraiment d'évolution, hein. Il y a des rapports qui montrent qu'entre 2005 et 2012, donc récemment encore, et c'est encore le cas aujourd'hui, chaque semaine, vous avez deux cas de figure où vous avez un policier blanc qui tue un noir. Alors le noir n'est pas forcément désarmé, pas forcément innocent, mais on a tout de même une récurrence absolument incroyable de ce genre d'incident. Alors on en parle beaucoup avec Ferguson, mais c'est quelque chose de très fréquent. Et c'est étonnant que ça se maintienne à ce niveau-là, après Rodney King dont je parlais tout à l'heure, parce que dans la foulée, au début des années 90, il y a beaucoup d'associations de cop watch, à savoir de surveillance des policiers qui sont organisés aux États-Unis pour bien voir et dire quand les policiers dépassent leur rôle. Et malgré cela, on a une récurrence. Alors ça s'explique par plein de choses, et notamment par le fait que le port d'armes aux États-Unis est libéralisé. On le sait bien, on en a déjà parlé sur cette antenne ici. C'est fréquent, et du coup, les policiers souvent ont l'impression, ont l'idée qu'en face d'eux, n'importe qui peut être armé et donc peut les tuer. Donc c'est aussi une explication.
Bon, le cas de Ferguson est quand même assez spécial. Ferguson, c'est pas n'importe quelle ville, hein. C'est 20 000 habitants, mais il y a un contexte un peu particulier puisque la ville, si je me trompe pas, est plus pauvre que ses voisines et on a également un déséquilibre racial, entre guillemets, c'est-à-dire que dans le passé, il y avait beaucoup plus de blancs que de noirs et maintenant, ça s'est inversé, et on a une paupérisation de cette population noire, comme dans beaucoup de villes américaines, cette population qui subit de plein fouet la crise.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Ferguson était une ville blanche, une banlieue de Saint-Louis, une ville blanche, et aujourd'hui, vous avez 67% de la population qui est noire, et ça a été extrêmement rapide, et du coup, il n'y a pas eu de traduction dans la police ou dans la justice, dans la politique. Dans les élus qui sont tous quasiment blancs, il y a trois policiers noirs, vous imaginez, à Ferguson. Donc, on est effectivement dans un face-à-face presque racial et social, vous avez aussi raison de le dire. Et puis, j'ajouterais quand même que les noirs sont victimes de ce qu'on appelle le racial profiling, un peu ce qu'on peut appeler en français les contrôles faciès, à savoir qu'ils sont beaucoup plus contrôlés que les blancs. J'ai trouvé notamment une statistique intéressante peut-être pour vos auditeurs. 93% des gens qui sont arrêtés en voiture uniquement pour un contrôle d'identité sont des noirs, alors qu'ils ne sont que 67% de la population. Et quand on parle de la situation raciale, c'est aussi ça, c'est pas uniquement des gens qui tombent sous les balles, c'est très impressionnant, mais c'est aussi tous les jours, une police blanche qui cible en particulier les Noirs, alors que c'est théoriquement interdit par la Constitution américaine.
Un mot peut-être, Thomas Snegaroff, de cette militarisation de la police, parce que là aussi, à Ferguson, on a un cas spécifique, c'est que cette ville a bénéficié d'un programme qui s'appelle le programme 1033, qui permet au Pentagone de réinsérer son stock d'armes dans des polices locales. Est-ce que là, on n'a pas là aussi une conjonction de facteurs avec cette militarisation qui entraîne ce genre de tragédie?
Bien sûr. Alors cette militarisation, il faut la remonter en fait après le 11 septembre 2001. On s'est rendu compte que les villes américaines pouvaient être attaquées par des terroristes. Donc on s'est rendu compte que les polices étaient incapables de réagir aux menaces nouvelles. Et du coup, on a commencé à armer. Et puis s'ajoute à cela, évidemment, l'engagement militaire en Irak, en Afghanistan, et le désengagement, et donc des armes considérables dont on ne sait pas quoi faire. Troisième élément, la guerre contre la drogue, qui est extrêmement forte aux États-Unis. On s'est dit qu'il fallait employer des instruments militaires pour cela. Le seul problème, c'est que vous avez des policiers qui se trouvent avec des armes sans être forcément formés pour les utiliser, qui se trouvent vraiment parfois des jeunes types. Hein, Darren Wilson, il a 28 ans, entre leurs mains des armes presque de destruction qui n'ont pas lieu d'être dans des villes américaines. Et vous avez en face effectivement une conjonction d'éléments qui explique cela. Alors, vous avez aujourd'hui un élu américain, Rand Paul, qui est sénateur du Kentucky, qui sera peut-être le candidat républicain en 2016, qui appelle à la démilitarisation de la police locale, parce que cette militarisation de la police locale, c'est effectivement un facteur aggravant, et on le voit aujourd'hui, hein. C'est un facteur aussi qui met le feu aux poudres dans ces villes américaines.
Restez avec nous en ligne, Thomas Snegaroff. D'autres questions nous attendent sur cette situation à Ferguson. Merci beaucoup à Philippe qui nous appelait depuis Kinshasa. 339-693-693-70. Nous sommes en ligne avec Abel depuis Nouakchott en Mauritanie. Bonjour Abel.
Bonjour Sébastien.
Vous aviez des questions toujours à propos de Ferguson et notamment de l'attitude des autorités américaines et de Barack Obama. On vous écoute.
Ok, j'ai une série de trois questions à ce sujet aussi. Le président Obama a toujours dénoncé le racisme dans le monde. Pourquoi est-il en retrait face à ce drame? Deuxième question, comment réagit l'administration américaine à cette affaire? Troisième question, comment l'administration Obama compte faire pour lutter contre les comportements raciaux dans la société américaine?
Thomas Negaroff, c'est vrai que du côté de Barack Obama, il n'y a pas eu véritablement d'implication personnelle. En tout cas, il n'est pas allé sur place. Notamment, il s'est exprimé, mais toujours de façon très prudente, très équilibrée. Pourquoi Barack Obama est si prudent, justement, sur cette affaire?
Alors d'abord, il doit l'être parce qu'il y a la justice est en cours. Et donc, un président américain, en particulier, ne peut pas se permettre de prendre parti pour les uns ou pour les autres. Même si, effectivement, on a l'impression, nous, qu'il aurait dû en faire plus, notamment en termes d'empathie. On se souvient, il y a un an, au moment de l'affaire Trayvon Martin, où il avait dit que ce jeune noir aurait peut-être son fils, il avait pratiquement pleuré. Mais là, c'était pas la police qui était en cause. Ici, la police est en cause et c'est compliqué pour un président, quel qu'il soit noir ou blanc, de venir critiquer une institution telle que la police locale. Donc c'était compliqué pour lui. Après, de là à dire qu'il n'a rien fait, je ne pense pas. Il a tout de même envoyé, c'est la deuxième question qu'Abel posait, il a envoyé son ministre de la Justice, Eric Holder, sur place, il y est depuis hier, je crois. Il mène des auditions, il écoute tout le monde.
Il y a 3 autopsies qui ont même été demandées, ce qui est un fait assez rare pour le coup.
Ben oui, parce que n'oublions pas que c'est triste et c'est horrible, mais c'est banal ce qui s'est passé à Ferguson. Et donc la réponse elle est tout de même de très haut niveau. Le ministre de la Justice est quand même une personnalité très importante, qui d'ailleurs est un noir américain et qui a, Eric Holder, une histoire, lui, de militant des droits civiques, à la différence de Barack Obama. Et c'est justement ce que je voulais dire ensuite. Que Barack Obama, eh bien, sur les questions raciales, il est très embêté en permanence par sa couleur de peau, paradoxalement. C'est qu'on pensait qu'il allait être le président enfin de la fin réelle de la ségrégation, de la discrimination, du racisme. Sauf que pour lui, tout problème racial est un piège. Les républicains lui sautent dessus immédiatement en disant, regardez, en fait, Barack Obama est bien le président des Noirs, il est raciste à l'envers, il est anti-blanc, et il est toujours très gêné. Et aujourd'hui, on commence à se dire que sur les questions raciales, eh bien, Obama aura été un président plutôt conservateur, qui est peut-être décevant, même si aujourd'hui, la Maison-Blanche répond en général qu'une réforme comme Obamacare sur l'assurance santé est d'abord, donc aide tous les Américains, mais beaucoup de Noirs américains, et c'est aussi ça peut-être que de faire de la politique, c'est pas uniquement de pleurer à la télévision quand il se passe quelque chose, c'est aussi de faire concrètement des lois. Et Obamacare, effectivement, profite à beaucoup de Noirs qui n'étaient pas assurés préalablement aux États-Unis.
Merci beaucoup, Thomas Negaroff, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste des États-Unis. Merci beaucoup à Abel d'avoir été en ligne depuis Nouakchott en Mauritanie. 339-693-693-70. Un nouvel auditeur au standard. Il s'agit de Jakarija. Bonjour.
Oui, bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Vous êtes à Bamako, au Mali, et vous avez des questions concernant le jugement de 2 anciens dirigeants Khmer Rouge au Cambodge. On vous écoute.
Le régime cambodgien ne souhaite plus qu'il y ait de nouveaux procès à l'encontre des Khmer Rouge. Je ne comprends pas cette annonce. Pour quelle raison le gouvernement cambodgien est réticent à l'ouverture des nouveaux procès à l'encontre des Khmer Rouge? Ensuite, combien d'anciens Khmer Rouge ont-ils été jugés par le temps et combien il reste? Enfin, comment réagit l'ONU face à cette annonce du premier ministre
cambodgien? Bon, Jakarija, la ligne a un peu coupé. De toute façon, on va répéter les questions pour tout le monde. Pour vous répondre, Christophe Paget, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à RFI. Effectivement, le 7 août, 2 anciens dignitaires Khmer Rouge condamnés à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Le régime Khmer, hein, c'était un règne sur le Cambodge sans partage de 75 à 79. Une dictature terrible, presque 2 millions de morts. Ces deux hommes devaient être les derniers responsables Khmer à passer devant le tribunal chargé de juger les crimes du régime. Pour quelles raisons le gouvernement est-il réticent en fait à l'ouverture de nouveaux procès à l'encontre des Khmer Rouges?
Alors, comme le disait l'auditeur, ce n'est pas que le Premier ministre Hun Sen est réticent, c'est qu'il ne veut pas. Pour clarifier tout ça, on va revenir sur la création de ce tribunal. C'est Hun Sen lui-même qui a demandé à l'ONU en 1997 de l'aider à juger le chef des Khmer Rouges, Pol Pot, ainsi que les autres dirigeants. L'ONU était d'accord, son secrétaire général Kofi Annan a alors mandaté un groupe d'experts qui a proposé de mettre en place un tribunal international, comme ceux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie. Problème, Hun Sen a dit alors qu'il préférait un procès devant les tribunaux cambodgiens. Là, c'est devenu compliqué. L'ONU a expliqué que pour qu'elle accepte de collaborer, il fallait que certains standards internationaux soient respectés. Les négociations ont duré des années. Au final, pas de tribunal international, mais des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. Une sorte de tribunal mixte, en fait. Les juges et procureurs internationaux y participent. C'est d'ailleurs l'ONU qui paye pour tout ça. Mais les magistrats cambodgiens restent majoritaires. Hun Sen voulait clairement garder la main sur ces procès. D'ailleurs, dans l'accord signé en 2003 entre le gouvernement cambodgien et l'ONU, il a été entendu que seuls les chefs Khmer Rouge seraient jugés par ce qu'on appelle les cadres intermédiaires.
Ah, pourquoi, Christophe ?
Hun Sen le répète depuis le début, aller trop loin, c'est risquer une guerre civile. Et c'est un argument qui trouve un écho chez une partie des Cambodgiens. Autant certains veulent que les choses soient dites et que les responsables soient montrés du doigt. On parle quand même du meurtre du quart de la population cambodgienne en moins de 5 ans. 2 millions de personnes, vous le disiez. Mais d'autres estiment qu'il ne faut pas remuer le passé. Et ça, ce sont ceux qui n'ont pas confiance dans ce tribunal. Un tribunal extrêmement lent, qui n'a été mis en place qu'en 2006 et qui ferait l'objet, selon les ONG, de nombreuses pressions de la part du gouvernement. Et puis, ces gens Sébastien, souvent le même quartier, le même village, le même immeuble parfois que leur bourreau. Alors, parler de guerre civile, c'est certainement trop fort, mais c'est suffisant pour faire peur aux gens.
Alors, est-ce que Hun Sen, lui-même, le Premier ministre, y croit, lui, à cette histoire de guerre civile ?
En tout cas, il doit certainement penser aux accords qu'il a passés avec les derniers Khmer Rouge lorsqu'ils se sont ralliés à lui en 1998. D'autant qu'il a intégré certains de ces fameux cadres intermédiaires dont on parlait, des cadres qui ne seront donc pas jugés, dans son armée et dans son gouvernement. Sachant évidemment que lui-même est un ancien Khmer Rouge, qui a fait défection en 1975 et qui est revenu dans le pays en 1979 lors de l'invasion de l'armée vietnamienne. Ces jugements, ce tribunal qu'il a finalement réussi à rendre international tout en gardant la main dessus, ce doit être justement un brevet de bonne volonté devant la communauté internationale et la promesse d'un pays apaisé et réconcilié. Aller trop loin lors des procès et juger trop de monde ne l'arrange pas. Depuis plus de 10 ans, les magistrats étrangers des chambres intermédiaires essaient ainsi de faire juger 5 autres Khmer Rouge. Dans d'anciens membres de l'armée et d'anciens responsables régionaux, mais sans succès. Un juge international qui tentait d'ailleurs d'instruire ces dossiers a fini par démissionner, car Hun Sen l'a dit et répété, les procès en cours seront les derniers.
Alors c'était la deuxième question de Jakarija. Combien d'anciens responsables du régime Khmer ont été jugés jusqu'à présent ?
À peine 3 personnes. D'abord Douche, le chef du camp de la Morez 21, où plus de 15 000 personnes ont été torturées et exécutées. Il a écopé de 35 ans de prison, puis de la perpétuité en appel. Pour ce qui est du deuxième dossier, 4 dirigeants devaient être jugés. Deux seulement sont allés au bout, Nguyen Chea, l'idéologue du parti, et Khieu Samphan, l'ancien chef de l'État. Pour ce qui est des 2 autres, l'un est mort et on a considéré que l'autre n'avait plus toute sa tête, car ses accusés ont tous plus de 80 ans. C'est pour ça que le procès a été découpé en petits bouts, pour qu'ils soient condamnés au moins une fois avant de mourir. Alors, lors de leur premier procès pour crime contre l'humanité, Nguyen Chea et Khieu Samphan ont certes écopé de la perpétuité, mais comme ils ont fait appel, ce n'est même pas sûr qu'avant de mourir, ils soient condamnés définitivement. Encore moins sûr que leur deuxième procès pour génocide qui vient de commencer aille à son terme.
Il nous reste une bonne minute pour répondre à la dernière question de Jakarija. Pour ce qui est des réactions de l'ONU au refus de Hun Sen de faire d'autres procès, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Alors, l'ONU n'a pas réagi dernièrement parce que Hun Sen n'a pas fait ce genre de déclaration en personne dernièrement. Mais il faut dire que l'ONU a une histoire particulière par rapport au Cambodge. Les Occidentaux ont soutenu jusque très tard le régime des Khmer Rouges contre les Vietnamiens. Au début des années 70, pendant la guerre du Vietnam, on se rappelle des bombardements secrets des Américains sur le Cambodge. Et puis ensuite, lorsque le Vietnam a envahi en 1979 le pays, mettant fin au régime des Khmer Rouges, ils se sont certes réfugiés dans la campagne, où ils ont d'ailleurs continué leurs atrocités, mais jusqu'en 1991, ce sont toujours eux qui ont représenté le Cambodge à l'ONU. L'ONU était tout à fait d'accord pour que ces procès aient lieu, mais elle marche un peu sur des œufs, d'autant que l'argument d'Hun Sen, selon lequel on risque une guerre civile en creusant trop, même si, comme je le disais, c'est peu probable, doit faire son effet sur l'ONU.
Christophe Paget, journaliste à RFI, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à la question de Jakarija qui nous appelait depuis Bamako, au Mali, 339 693 693 70. Vous nous appelez à tout moment pour passer dans la libre antenne. Ce sera dans 10 minutes après le journal, comme tous les vendredis. Vous revenez sur les sujets qui vous intéressent dans l'actualité internationale, française ou africaine, les sujets des derniers jours qui se font la une de l'actualité, mais pas forcément, peut-être ça peut être des sujets oubliés, mais qui vous tiennent à cœur. Vous voulez d'ailleurs peut-être passer un coup de gueule, n'hésitez pas à nous joindre ou à utiliser notre adresse email, appel@actu.rfi.fr, ainsi que à tout moment les réseaux sociaux, profil Facebook et Twitter. À tout à l'heure.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.